Donc nous sommes le 26 mars 2026 et donc c'est notre 9e séance, je crois, consacrée à la lecture du traité théologico-politique de Spinoza. Alors ce soir nous abordons le chapitre 14 qui traite de la question de la foi. Et la prochaine fois nous aborderons le chapitre 15. Consacré quant à lui à la question des rapports entre la raison et la foi. Alors, notre dernière séance concernait le chapitre 7, où Spinoza, souvenez-vous, élabore une méthode rationnelle d'interprétation de la Bible qui permet d'en dégager le véritable sens. Alors, vous me direz, pourquoi faire ce saut et aller directement au chapitre 14 ? Ah, pour une raison très simple, l'année passe très vite, et je veux être sûr que nous ayons abordé les chapitres 14 et 15, dont la lecture me paraît indispensable pour avoir une idée complète de la grande première partie du traité, dans laquelle, je vous le rappelle, Spinoza veut montrer que la liberté de penser, non seulement n'est pas nuisible à la piété, mais au contraire, lui est très utile. Et tant entendu que la seconde partie, que nous ne pourrons pas vraiment aborder, c'est-à-dire les chapitres 16 à 20, plus connus d'ailleurs, concernent la question politique. C'est-à-dire il s'agit de montrer pour Spinoza que la liberté est utile et nécessaire à l'État. Alors, si nous pouvons passer directement au chapitre 14, sans trop nuire à notre lecture, c'est parce que ce chapitre, vous allez vous en rendre compte, s'appuie sur le chapitre 7, pour éclairer la nature de la foi. Alors, je vous donne le titre entier du chapitre 14, d'ailleurs vous l'avez, sur la première page, ce qu'est la foi, quels hommes sont des fidèles, détermination des fondements de la foi, enfin, séparation de la foi et de la philosophie. Bon, c'est plutôt un plan qu'un titre. Et on peut résumer les étapes de la démarche de Spinoza dans ce chapitre de la manière suivante. Dans un premier temps, il va analyser les raisons pour lesquelles les hommes que Spinoza appelle les fondateurs de sectes, alors qu'est-ce qu'il désigne ainsi ? Qui désigne-t-il ainsi ? Disons ceux qui instituent des églises. À qui pense-t-il ? À des gens comme Calvin, par exemple, qui instituent l'église réformée. Et il y en a d'autres encore. Donc ces gens-là, donc ces fondateurs de sectes, ils abusent de l'autorité de l'Écriture. En se revendiquant de son autorité, ils prétendent définir la véritable foi, alors qu'en fait, ils imposent aux autres hommes leurs propres opinions, et ils condamnent comme hérétiques tous ceux qui ne les partagent pas. Or, pour établir une connaissance vraie de la foi, il faut, dit Spinoza, c'est ce que nous allons montrer, il faut une règle vraie qui permette de la définir. Et comme on le verra, cette règle, c'est le commandement divin d'aimer son prochain comme soi-même, que l'on peut tirer de tous les textes de l'Écriture, aussi bien de l'Ancien Testament que du Nouveau Testament. Et c'est à partir de cette règle qu'on pourra déterminer en quoi consiste la foi, qu'on pourra en dégager les caractères fondamentaux et qu'on pourra enfin établir les dogmes sur lesquels elle repose. Et enfin, dans un dernier temps, quand on aura défini la foi, on pourra montrer qu'elle n'a rien de commun avec la philosophie, car elle est orientée exclusivement vers la pratique, et elle n'a aucunement pour objet la recherche de la vérité. Elle est donc radicalement différente. Alors abordons maintenant donc la lecture du chapitre 14. Comme l'indique Spinoza au début de ce chapitre, il est indispensable d'avoir une vraie connaissance de la foi si l'on veut mettre un terme aux controverses religieuses qui nourrissent l'intolérance et sont une grave menace pour la paix civile en mettant en danger l'État. Alors d'où vient surtout l'intolérance? Elle vient de ces hommes que Spinoza appelle les fondateurs de sectes, qui prétendent tirer des articles de foi de la lecture aveugle qu'ils font d'écriture, en confondant leurs propres opinions avec son enseignement. Ils se croient ainsi autorisés à accuser d'impiété tous ceux qui ne partagent pas leurs opinions, et ils vont jusqu'à les persécuter en les désignant comme des ennemis de Dieu. Alors une telle attitude serait impossible si ces hommes faisaient preuve de discernement et si au lieu, comme le dit Spinoza, si au lieu d'accepter indistinctement tout le contenu de l'écriture, eh bien ils prenaient le soin de distinguer véritablement la parole de Dieu, c'est-à-dire le véritable enseignement de l'écriture, qui est son enseignement moral, d'avec les opinions diverses, diverses et variées, parfois contradictoires, qui sont celles des prophètes et des différents rédacteurs des livres de la Bible. Alors, vous voyez, par exemple, lisons le début du chapitre. Que pour avoir de la foi une connaissance vraie, il soit nécessaire en premier lieu de savoir que l'Écriture est adaptée non seulement à la compréhension des prophètes, mais aussi à celle du bas peuple juif, divers et inconstants, nul ne peut l'ignorer, qui considère les choses même légèrement. Car si l'on accepte indistinctement tout le contenu de l'Écriture comme une doctrine universelle et absolue sur Dieu, s'il n'en a pas pris soin de distinguer avec exactitude ce qui est adapté à la compréhension du vulgaire, eh bien il sera impossible de ne pas confondre avec la doctrine divine les opinions du vulgaire, de ne pas donner pour enseignement divin ce qui est invention de l'homme et décision lui agréant, et de ne pas abuser de l'autorité de l'écriture. Fin de citation. Alors le vulgaire, encore une fois, je rappelle, c'est la foule ignorante. Or, comme on l'a vu au chapitre 7, pour saisir le véritable sens de l'Écriture et pour se donner les moyens d'avoir une connaissance vraie de la foi, il faut dégager son noyau invariable et universel, l'enseignement moral exprimé par tous les prophètes, des opinions qui varient selon les époques, en fonction des moyens de compréhension des hommes, selon les préoccupations et les mentalités du moment. Donc, on ne peut pas ici appréhender le contenu de l'Écriture comme s'il était un bloc indistinct, un texte unique, écrit par un seul rédacteur, un texte parfait, dont il ne manque aucun fragment, qui n'a subi aucune altération, un texte exempt de défauts et d'incohérences. On ne peut pas lire la Bible comme tous ceux qui, selon les termes de Spinoza au début du chapitre 12, tous ceux qui lisent la Bible comme si, je cite, « comme si elle était une épître de Dieu envoyée du ciel aux hommes ». Une épître de Dieu envoyée du ciel aux hommes. C'est ce qu'écrit Spinoza au début du chapitre 12. Et comme il le relève ici au chapitre 14, lisons à partir de la ligne 20, les livres sacrés, en effet, n'ont pas été écrits par un seul auteur, ni pour le vulgaire d'un seul siècle. Ils sont l'œuvre d'un très grand nombre d'hommes de complexions différentes et qui ont vécu dans des temps différents. Si l'on voulait compter les siècles qui les séparent, on trouverait 2000 ans et peut-être bien davantage. C'est ainsi que, faute de discernement, eh bien, on focalise son attention sur tel ou tel passage de l'Écriture, sur telle ou telle opinion particulière d'un prophète, et que l'on en fait un article de foi. Et pour illustrer ce point, il suffit de songer à la condamnation de Galilée, fondateur de la physique, par l'Église catholique en 1633, après qu'il osa faire paraître un livre où il établissait que la Terre tourne autour du Soleil. Il reprenait l'hypothèse héliocentrique de Copernic. Eh bien, l'Église catholique lui opposa le livre de Josué, où il était dit que pendant un jour de bataille, bien le soleil avait suspendu son mouvement dans le ciel, et il fallait donc en conclure, selon l'Église catholique, eh bien que la théorie de Galilée était non seulement fausse, mais impie. Et il dut abjurer. Alors, vous voyez que qui ose énoncer une théorie sur la structure du cosmos qui n'est pas conforme au dogme de la foi, dont l'Église se veut la gardienne, eh bien, voit ses livres censurés et se voit condamné pour crime d'impiété et d'hérésie. Alors, l'accusation d'impiété ne met d'ailleurs pas seulement en cause la liberté de penser des philosophes, et je vous ai dit que par le terme de philosophe, il faut englober les savants, parce que, encore une fois, à l'époque, on ne dit pas la physique, on dit la philosophie naturelle. Donc, les philosophes, ce sont tous les savants. Galilée est un philosophe, en ce sens. Donc, l'accusation d'impiété ne met pas seulement en cause donc, la liberté de penser des philosophes, mais aussi celle de tout homme en matière de religion. Or, comme l'indique déjà Spinoza, en ce début de chapitre, et comme il va longuement l'expliquer dans le chapitre, si l'on suit vraiment l'enseignement d'Écriture, elle ne dicte aucune vérité sur la nature de Dieu ou sur la structure du cosmos. Elle commande seulement de pratiquer la justice et la charité. Son enseignement est exclusivement moral. Ce n'est donc pas commettre un crime d'impiété que d'exprimer son opinion personnelle sur les paroles de l'Écriture. Et, comme le dit Spinoza, c'est même une bonne chose si celui qui exprime son opinion, comme l'écrit Spinoza, je cite, « y voit un moyen d'obéir à Dieu en ce qui touche la justice et la charité d'une âme plus pleinement consentante ». Loin d'être nuisible à la piété, et c'est ce que nous allons établir ce soir, la liberté d'opinion en matière religieuse peut lui être utile en la favorisant. Et en revanche, ce qui est vraiment impie, si on suit toujours l'enseignement d'Écriture, c'est d'imposer aux hommes ses propres opinions au nom de l'autorité de l'Écriture et de leur interdire d'exprimer les leurs, en allant jusqu'à les persécuter comme des ennemis de Dieu. Être impie, c'est ainsi faire violence aux hommes en violant le commandement divin d'amour du prochain, c'est-à-dire qui exige la pratique de la justice et de la charité. Être impie, c'est désobéir à Dieu puisque c'est violer son commandement. Alors je cite Spinoza, lisez avec moi, ligne 26, « Quant à ces fondateurs de sectes, nous ne voulons pas les accuser d'impiété pour cette seule raison qu'ils ont adapté à leurs opinions les paroles de l'Écriture, de même en effet qu'elle fut adaptée jadis à la compréhension du vulgaire, De même, il est loisible à chacun de l'adapter aussi à ses propres opinions, s'il y voit un moyen d'obéir à Dieu, en ce qui touche la justice et la charité, d'une âme plus pleinement consentante. Nous les accusons parce qu'ils ne veulent pas reconnaître aux autres la même liberté. Persécutent comme ennemis de Dieu tous ceux qui ne pensent pas comme eux. Vécussent-ils le plus honnêtement du monde et dans la pratique de la vertu véritable? Chérissent au contraire, comme des élus de Dieu, ceux qui les suivent docilement, alors même qu'ils sont le plus dépourvus de force morale. Et l'on ne peut concevoir attitude plus criminelle et plus funeste à l'État. Donc on mesure ici les conséquences de l'intolérance dogmatique dont font preuve ces fondateurs de sectes. En faisant le lit de la guerre civile, eh bien, cette intolérance menace l'existence même de l'État. C'est là l'enjeu du chapitre. Jusqu'où la liberté de penser peut-elle s'étendre en matière de religion? Est-ce qu'on peut soutenir des opinions et des croyances diverses sans être inquiété et désigné comme un hérétique? Et c'est pour répondre à cette question qu'il est nécessaire de définir la foi. Mais pour cela, il faut commencer par établir une règle vraie qui permette de la définir. Et quand on y sera parvenu, eh bien, on comprendra à ce moment-là en quoi consiste véritablement la foi et en quoi on peut vraiment dire d'un homme qu'il est fidèle ou infidèle, fidèle ou hérétique. Et c'est ainsi que Spinoza présente l'objet de son chapitre, ligne 42, repérez la ligne 42, j'ai souligné d'ailleurs le passage, afin d'établir donc jusqu'où s'étend pour chacun à l'égard de la foi la liberté de penser à son gré, et quels hommes nous sommes tenus de regarder comme des fidèles en dépit de la diversité de leur manière de voir, eh bien nous avons à déterminer les caractères fondamentaux de la foi. Ce sera l'objet de ce chapitre, en même temps que la séparation de la foi et de la philosophie, qui est le but principal auquel tend tout l'ouvrage. Donc, dans un premier moment, la question est de savoir comment on peut établir que la foi est une vraie foi, qu'elle est une véritable foi. Celui qui a la foi, qui prétend l'avoir, ne peut pas auto-proclamer qu'il a la véritable foi. Il ne peut pas se contenter de proclamer que sa foi est exempte d'erreur et d'hérésie. Ainsi, la question est la suivante. Qu'est-ce qui permet d'authentifier sa foi? Qu'est-ce qui permet d'indiquer quelle est la véritable foi? Eh bien, la réponse, comme va le montrer Spinoza, elle se trouve dans l'Écriture. Pour définir la foi, il faut partir de la seule règle qui permette de la définir et de l'authentifier. Et c'est cette règle, justement, que l'on peut dégager de l'Écriture en mettant en œuvre la méthode d'interprétation qui a été exposée au chapitre 7. Alors, lisez avec moi, ligne 50 ici. Rappelons l'objet essentiel de toute l'Écriture, ainsi aurons-nous une règle vraie pour définir la foi. Et plus bas, Spinoza précise que l'objet de l'Écriture est seulement d'enseigner l'obéissance. L'objet de l'Écriture est seulement d'enseigner l'obéissance. Alors, ce terme d'obéissance, que nous connaissons bien, n'offre pas de difficulté. Je crois qu'il faut tout de même le définir de façon précise. Et je vais trouver cette définition dans un chapitre de Spinoza, chapitre 5, le fameux chapitre 5 sur les cérémonies, où Spinoza dit que l'obéissance consiste en ce que l'on exécute des commandements par soumission à la seule autorité du chef qui commande. C'est très simple. Je reprends cette définition. L'obéissance consiste en ce qu'on exécute des commandements par soumission à la seule autorité du chef qui commande. Alors, dans l'Écriture, à qui obéit-on ? Quel est le chef qui commande ? Ben, c'est Dieu, par l'entremise des prophètes. C'est Dieu que les hommes se représentent comme une volonté qui légifère et qui ordonne, qui exprime des commandements. Et que ce soit dans l'Ancien Testament ou dans le Nouveau Testament, il est partout question d'obéir à Dieu. Alors, évidemment, cette obéissance s'exprime sous des modalités différentes selon l'Ancien ou le Nouveau Testament. Dans l'Ancien Testament, comme le précise Spinoza, l'obéissance se présente seulement sous le registre de l'obligation. Cette obéissance, elle est dictée par Moïse, sous la forme d'une loi que les Hébreux doivent suivre, sous peine d'être châtiés. Avec le Nouveau Testament, avec l'Évangile, l'obéissance s'intériorise. Elle est prise en charge par la foi. C'est ce qui fait que Spinoza écrit, ligne 65, regardez bien, l'Évangile, écrit-il, l'Évangile n'enseigne rien que la foi simple. Croire en Dieu et le révérer, ou ce qui revient au même, obéir à Dieu. Croire en Dieu, c'est obéir à Dieu. Toujours est-il que ce n'est pas par elle-même que la foi s'authentifie, mais par son lien à l'obéissance, par l'obéissance qu'elle induit. Et ce qu'enseigne encore l'Écriture, avec la plus grande clarté, comme nous avons déjà eu l'occasion de le voir, eh bien, c'est que la loi de Dieu consiste dans le seul commandement de l'amour du prochain, qui exige la pratique de la justice et de la charité. L'obéissance à Dieu, eh bien, elle consiste donc à obéir au commandement de l'amour du prochain, qui est ainsi, comme le dit Spinoza, la règle unique qui permet de définir la foi. Lisez avec moi colonne de droite, ligne 14. Ce commandement est la règle unique de toute la foi vraiment catholique, et par ce seul commandement doivent être déterminés tous les dogmes de la foi. Alors, vraiment catholique, ça veut dire que l'Église dite catholique n'est pas vraiment catholique. Vraiment catholique, ça veut dire universel. Ça veut dire universel. Donc, effectivement, écrire que ce commandement est la règle unique de toute la foi vraiment catholique, ça veut dire ici que la véritable Église, au fond, elle est au-delà des églises particulières. Elle est vraiment universelle, puisqu'elle est fondée exclusivement sur cette règle. Et dès lors que, comme le dit Spinoza, tout ce qui concerne la foi peut se déduire de ce seul fondement, eh bien, il est possible de mettre un terme aux dissensions qui opposent les églises et les sectes. À ces dissensions dont on a vu qu'elles résultent d'une lecture aveugle de la Bible qui consiste à tirer abusivement de tel ou tel passage un article de foi qu'on prétend imposée ainsi à tous les hommes. Et je le rappelle, ce sont ces dissensions qui rendent impératif de trouver une règle qui permette d'y mettre un terme. Il faut définir la foi, justement, pour mettre un terme à ces controverses qui dégénèrent en guerre civile. Ligne 24. Ce sont donc ces dissensions mêmes, colonne droite, hein, ce sont donc ces dissensions mêmes qui m'obligent à montrer ici la façon de procéder et la méthode à suivre dans la détermination des dogmes de la foi par ce principe que nous avons trouvé. C'est donc à partir de ce principe, c'est-à-dire cette règle que constitue l'obéissance au commandement de l'amour du prochain. Donc c'est à partir de ce principe que Spinoza va déduire la définition de la foi. Et cette définition, vous l'avez plus loin, ligne 34, je lis ce passage. Pour traiter donc ce sujet avec ordre, eh bien, je commencerai par la définition de la foi. En vertu du fondement posé, elle doit se définir comme consistant seulement à attribuer à Dieu par la pensée des caractères tels que l'ignorance de ces caractères doivent entraîner la destruction d'obéissance et que l'obéissance étant posée, ces caractères soient nécessairement posés. Alors évidemment, il faut expliquer. Non, c'est pas compliqué. Vous allez voir, c'est pas compliqué. Une définition très claire. Je confirme. Alors, c'est exprimé lourdement, c'est tout. Avoir la foi, vous savez bien qu'avoir la foi, ce n'est pas croire seulement que Dieu existe. Avoir la foi, c'est croire en Dieu. La foi porte sur la personne de Dieu. C'est un acte de confiance. Ainsi, celui qui a la foi a des raisons de croire. C'est-à-dire que sa foi implique nécessairement un certain nombre d'affirmations théoriques sur Dieu, que l'on appelle des articles de foi, que l'on appelle aussi des dogmes. Pour prendre quelques exemples, un chrétien croit comme un juif, comme un musulman, que Dieu a créé le monde. Mais parmi les trois personnages que j'ai cités, il est le seul à croire que Dieu a envoyé son Fils comme Messie pour sauver les hommes. Il est le seul à croire que Jésus-Christ est le Fils de Dieu. Vous voyez ? Donc, vous avez ici affaire à des dogmes qui ne sont pas universels. Le problème donc qui se pose est celui de savoir quels dogmes sont universels, c'est-à-dire valables pour tous les hommes, quelle que soit leur religion particulière. Et la définition de la foi, justement, que donne Spinoza, ne va retenir que les seuls dogmes qui sont nécessaires à l'accomplissement du commandement de l'amour du prochain. Il ne retient en effet, et là je reprends la définition que je vous ai citée, vous allez mieux l'entendre, il ne retient en effet que les dogmes qui, je cite, « attribuent à Dieu, par la pensée, des caractères tels que l'ignorance de ces caractères rende impossible l'obéissance au commandement. » C'est-à-dire que les seuls dogmes qui seront vraiment universels, qui peuvent valoir pour tous, eh bien, ce sont les dogmes qui, justement, rendent possible l'obéissance, sans lesquels il n'y a pas d'obéissance au commandement d'aimer son prochain. Ainsi, pour Spinoza, la véritable foi ne se définit pas par un contenu dogmatique, par des articles de foi qui peuvent être sujets à controverse, qui ne sont pas partagées par toutes les églises. Tous, vous le savez bien, tous ne croient pas que le Christ est le Fils de Dieu, qu'il a été envoyé par Dieu pour sauver les hommes et racheter leurs péchés. Et dès lors que les religions prétendent détenir la vérité en matière de dogme, eh bien, elles sont en désaccord. Et parfois, ce désaccord peut avoir des effets tragiques, comme on le voit en Europe au XVIe et au XVIIe siècle. C'est pourquoi Spinoza insiste sur le fait que la véritable foi ne se définit pas par un contenu dogmatique, c'est-à-dire par l'adhésion à des vérités, mais par une attitude commandée par l'obéissance à la loi de justice et de charité, conformément à l'enseignement des Écritures. Et cette obéissance n'est possible que si le croyant attribue à Dieu des caractères tels que leur affirmation facilite l'obéissance, alors que leur négation la rend au contraire impossible. Aussi, l'obéissance au commandement de l'amour du prochain requiert-elle un minimum de dogme, ceux qui sont juste nécessaires pour obéir au commandement d'amour du prochain, dont nous allons voir qu'ils ne peuvent pas être objet de controverse. Et donc, évidemment, toute la question, c'est de savoir ce qu'il faut admettre de Dieu pour que le commandement de l'amour du prochain ait un sens. Je reprends ma question. La question, c'est de savoir ce qu'il faut admettre de Dieu, ce qu'il faut admettre de ses qualités, pour que le commandement de l'amour du prochain ait un sens. Mais avant d'en venir au dogme auquel je fais référence, il va falloir éclairer davantage la nature de la foi. Et vous allez voir que la définition que Spinoza a donnée de la foi entraîne une série de conséquences qui ont trait à la nature du salut, à celle du fidèle et enfin à celle des dogmes. Et après, quand j'aurai montré cela, j'énoncerai les dogmes, les différents dogmes, les sept dogmes qui sont nécessaires ici à l'obéissance. Alors, la première conséquence de la définition que vous avez trouvée un peu lourde, c'est la suivante. Je la lis, elle se trouve ligne 43. La foi est productrice du salut, non par elle-même, mais eu égard à l'obéissance. Je reprends. La foi est productrice du salut, non par elle-même, mais eu égard seulement à l'obéissance. Donc cette première conséquence concerne ici les conditions requises pour le salut. Ce que dit ici Spinoza, c'est que ce n'est pas la foi en elle-même qui sauve, mais l'obéissance qu'elle induit. Et Spinoza s'appuie ici sur la référence à deux apôtres, Jean et Jacques, et ces deux apôtres affirment que la foi sans les œuvres est morte. La foi sans les œuvres est morte, c'est-à-dire la foi sans les actions est morte. Et il en résulte une seconde conséquence, énoncé ligne 47. En conséquence, je cite, qui est vraiment obéissant possède nécessairement la vraie foi, celle dont le salut est le fruit. Car, poser l'obéissance, nous avons dit que la foi était posée. Ainsi, c'est l'obéissance qui définit la foi. La foi véritable, celle qui produit le salut, et non pas l'inverse. Ce n'est pas parce qu'on a la foi qu'on obéit, Mais c'est parce qu'on obéit qu'on a la foi. Un homme qui prétend avoir la foi sans obéir au commandement de l'amour du prochain n'a pas réellement la foi. Ou pour le dire autrement, ce qui importe, ce ne sont pas les dogmes que l'on proclame et auxquels on adhère, ce sont les actes qu'on accomplit. Et comme l'indique encore Spinoza, alors là, c'est, je reprends plus haut le texte, ligne 4, colonne de droite, ligne 4, regardez, il y a une formule ici très intéressante. Nul ne peut nier que celui-là est vraiment obéissant et bienheureux selon la loi, qui aime son prochain comme lui-même, parce que Dieu l'a commandé, que celui-là, au contraire, est rebelle et insoumis, qui a son prochain en haine ou le laisse à l'abandon. D'ailleurs, on peut pardonner l'ignorance, mais on ne peut pas pardonner la désobéissance, la soumission. Troisième conséquence, ligne 56, plus bas, de là, nous conclurons encore une fois que nul ne doit être jugé fidèle ou infidèle sinon par ses œuvres. Si ses œuvres sont bonnes, bien qu'il s'écarte par ses dogmes des autres fidèles, il est cependant infidèle. Un, plus loin, fidèle. Si elles sont mauvaises, au contraire, bien qu'en parole il s'accorde avec eux, il est un infidèle. Alors, vous voyez, de cette définition de la foi, qui met l'accent sur la pratique, sur l'obéissance, et laisse de côté la référence à la vérité des dogmes, eh bien, de cette définition de la foi, il s'ensuit une définition de la nature du fidèle et de l'infidèle, du fidèle et de l'hérétique. Et cette définition que donne Spinoza est en rupture avec celle qu'on donne traditionnellement. Celle qui est traditionnellement admise. Ce qui définit l'infidèle ou l'hérétique, ce n'est pas qu'il s'écarte de mon Église par les dogmes auxquels il adhère. C'est sa conduite. C'est sa conduite quand elle est contraire au commandement de l'amour du prochain. C'est-à-dire qu'un homme peut se dire bon chrétien, bon juif, bon musulman, s'il ne pratique pas la justice et la charité, eh bien, il est un infidèle. Quelle que soit son appartenance religieuse. Car encore une fois, et Spinoza reprend la formule, la foi sans les œuvres est morte. Où l'on voit que l'accord théorique sur les dogmes n'est pas un critère de fidélité. Et que le désaccord à leurs propos ne signifie pas nécessairement infidélité, hérésie. Finalement, accord ou désaccord, c'est assez secondaire. Où l'on voit encore que celui qui mérite d'être appelé antichrétien n'est pas celui qu'on croit ordinairement. Alors ici, évidemment, ça ne vous parle peut-être pas beaucoup, parce qu'à l'époque, l'accusation d'antéchrist était une accusation assez grave. C'était l'accusation suprême qu'on lançait contre ceux qu'on jugeait hérétiques. Par exemple, Calvin, le fondateur de l'Église réformée, identifiait le pape à l'antéchrist. Oh, c'est changé des jolis mots, hein, comme ça. Antéchrist. Eh bien, vous voyez ce que dit Spinoza à ce sujet. Page 2, je vais vous passer à la page 2, cette fois-ci, en haut à gauche. De là, nous concluons de nouveau qu'il est en réalité antichrétien ou antéchrist. Celui qui persécute des hommes de vie honnête et a mis la justice parce que leur opinion s'écarte de la sienne et qu'ils ne s'attachent pas aux mêmes dogmes ou articles de foi. Car nous savons qu'aimer la justice et la charité suffit pour qu'on soit infidèle. Et persécuter les fidèles, eh bien, c'est être antichrétien. Donc tous les persécuteurs sont des antichrétiens. Donc vous voyez ici, soyons clairs, celui qui mérite l'accusation d'antichrétien, ce n'est pas celui qu'on croit. Ce n'est pas celui qui ne partage pas les mêmes dogmes que les chrétiens. C'est celui que l'on persécute alors qu'il est un honnête homme, alors qu'il est un homme vertueux. Et qu'on soit chrétien, musulman ou juif, si on persécute un autre homme, eh bien, on est un infidèle. Alors, vous voyez, ici, on est très loin des propos de saint Augustin, qui était la référence, d'ailleurs, à l'époque. On citait très volontiers saint Augustin, on se revendiquait très volontiers de saint Augustin, on invoquait son interprétation de la parabole du festin. Bon. Et dans une lettre, saint Augustin a vécu au IVe siècle, hein, c'était l'évêque d'Hippone, hein, aujourd'hui pas loin de la Tunisie, si vous voulez, hein, l'est de l'Algérie, début de la Tunisie. Bon. Eh bien, Augustin, qui est devenu évêque d'Hippone, avait écrit une lettre à un certain Boniface où il justifiait l'usage de la persécution pour ramener les hérétiques à la vraie religion, pour les ramener au bercail, en quelque sorte. Et voilà ce qu'il écrivait, je vous cite. « Il y a une persécution injuste, celle que font les impies à l'Église du Christ. Et il y a une persécution juste, celle que font les églises du Christ aux impies. L'Église persécute par amour et les impies par cruauté. C'est pour votre bien qu'on vous persécute, pour vous ramener dans le chemin de la vérité. » Bon, alors, l'argumentation de saint Augustin est assez fine, il ne faut pas trop caricaturer, mais disons que tout de même, pour l'essentiel, il y a une justification de la persécution. Et chez saint Thomas d'Aquin, ce sera la même chose. Donc, vous voyez, il faut penser à ça quand on lit Spinoza. Et à ce propos, on ne peut manquer de s'interroger sur la persécution qu'il subit lui-même à son époque. Alors, bien sûr, il ne va pas être brûlé sur la place publique, c'est vrai, comme ce fut le cas de Giordano Bruno au début du XVIIe siècle. Hein. Bon. Effectivement, Spinoza était persécuté parce qu'il était accusé d'être un athée par ses contemporains. Et en tant que philosophe, on en a déjà parlé, c'est vrai qu'il ne croit pas en Dieu. Parce qu'il ne se le représente pas comme un législateur auquel il faut obéir. Il sait que Dieu existe. Il en démontre l'existence, par la raison, philosophiquement. Mais le démontrant comme le Dieu nature, hein, dont nous avons déjà parlé, eh bien, il ne le conçoit pas comme une personne, mais comme la substance unique qui se trouve en toute chose et dont toute chose procède. Et en tant que philosophe, il n'a pas besoin d'obéir à un Dieu imaginé de manière anthropomorphique, comme une volonté législatrice, pour agir vertueusement, car il est convaincu par la raison de la nécessité d'agir vertueusement. Je rappelle tous ces points. Mais il n'en reste pas moins que Spinoza est perçu comme un athée. Et pour un croyant, il apparaît inconcevable qu'un homme qui ne croit pas en Dieu agisse vertueusement. Seulement, comme le montre ici Spinoza, on peut s'appuyer sur ce qu'il écrit ici. Si le croyant suit vraiment l'enseignement d'Écriture, eh bien, il jugera les hommes seulement selon leurs œuvres et non selon leur profession de foi philosophique ou religieuse. Et de ce point de vue, un croyant ne peut même pas dire qu'un homme comme Spinoza est athée. Puisque, si vous avez bien compris, celui qui a la foi, c'est celui qui pratique la justice et la charité. C'est à cela qu'on reconnaît qu'il a vraiment la foi. Sa façon de vivre, la façon de vivre de Spinoza, ses relations avec les autres hommes, montrent qu'il pratique lui-même la justice et la charité. Alors, bien sûr, à ce croyant, il paraîtra difficilement concevable qu'on puisse ne pas avoir la foi, qu'on puisse agir vertueusement sans avoir la foi. Mais si ce croyant suit vraiment l'enseignement de l'Écriture, il ne pourra pas vraiment dire que Spinoza est athée, étant donné sa conduite. Vous voyez comment on peut ici aborder le cas Spinoza ? J'en viens à la quatrième conséquence. Elle est énoncée, toujours page 2, lignes 8 à 14. Il suit enfin que la foi requiert moins des dogmes vrais que des dogmes pieux. Très important cette distinction. Il suit enfin que la foi requiert moins des dogmes vrais que des dogmes pieux. C'est-à-dire capable de mouvoir l'âme à l'obéissance. Encore bien qu'il en soit beaucoup parmi eux, qui n'ont pas l'ombre de vérité. Pourvu cependant qu'en s'y attachant, on en ignore la fausseté, sans quoi il y aurait nécessairement rébellion. Commentons. Encore une fois, Spinoza met l'accent sur l'obéissance. Elle prime sur la question de la vérité. La foi requiert avant tout des dogmes pieux. Des dogmes pieux, ce sont des dogmes qui assurent l'efficacité de l'obéissance au commandement de l'amour du prochain. Vous voyez, c'est ça, ce sont des dogmes, je reprends l'expression de Spinoza, ce sont des dogmes qui sont capables de mouvoir l'âme à l'obéissance. Et cette efficacité, elle peut être assurée donc à deux conditions. D'abord, comme je l'ai dit, il faut que les dogmes pieux soient capables de mouvoir l'âme à l'obéissance, c'est la première condition, en suscitant la ferveur, en suscitant l'adoration pour Dieu. Et puis la deuxième condition, c'est qu'il faut que ces dogmes soient tenus pour vrais, même s'ils ne le sont pas. Même s'ils ne le sont pas. Même s'ils n'ont pas l'ombre de la vérité. Je reprends l'expression de Spinoza. Même s'ils n'ont pas l'ombre de la vérité. Mais à condition toutefois que celui qui, par exemple, se représente faussement la nature de Dieu, eh bien, ne soit pas conscient de cette fausseté. Auquel cas, il serait hypocrite et menteur. Ou pire encore, il serait un manipulateur, utilisant des représentations fausses pour agir sur les autres. Donc, il est important que celui qui croit à ces dogmes, eh bien, n'est pas conscient s'ils sont faux de leur fausseté. Vous voyez ? Alors, bien sûr, il n'est pas exclu que les dogmes religieux soient vrais. C'est le cas notamment, vous allez le voir, du premier dogme, le dogme qui affirme l'existence de Dieu. Pourquoi ? Puisque le philosophe peut établir par la démonstration, à partir de l'idée que nous en avons, il peut établir cette existence, démonstrativement. Seulement, du point de vue de la foi, ce n'est pas là l'essentiel. L'essentiel, c'est que les dogmes auxquels adhère le croyant, l'essentiel est que ces dogmes soient dotés d'une efficacité qui mobilise à l'obéissance. C'est ça le plus important. Et s'il se trouve que des idées fausses ont davantage de prise sur les âmes que les idées vraies, eh bien, elles seront de ce point de vue préférables aux idées vraies. À condition, répétons-le, que celui qui adhère aux idées fausses en ignore la fausseté. Il compte sur la sincérité du cœur. Cinquième et dernière conséquence de la définition de la foi, ligne 40, nous devons conclure que la foi catholique ou universelle ne comprend pas de dogmes au sujet desquels il puisse y avoir controverse entre des hommes honnêtes ou vertueux. Les dogmes sujets à controverse, en effet, peuvent être pieux quand on les considère dans une âme, impies dans une autre, puisqu'il faut en juger par les œuvres seules. Alors, je vais prendre un exemple pour illustrer. Supposez, par exemple, que deux hommes vertueux, deux hommes honnêtes, soient en désaccord sur un dogme. Eh bien, ce dogme sera jugé pieux en ce qu'il conduit le premier homme qui soutient ce dogme à obéir au commandement de l'amour du prochain, mais en même temps, il sera jugé impie en ce qu'il n'induit aucunement le deuxième homme qui récuse ce dogme à l'obéissance. Oui. Donc, vous voyez, là, vous avez affaire à des dogmes qui sont sujets de controverse. Et par contraste ou par opposition, on voit que les seuls dogmes qui sont requis pour obéir au commandement de l'amour du prochain, eh bien, eux font consensus. Ce sont les seuls qui font consensus. Tous les autres sont objets de controverse. Tous ceux qui portent sur, la nature de Dieu ou sur le rôle de Jésus-Christ, bon, eh bien, ce sont des dogmes qui sont sujets à controverse. Par contre, les dogmes qui, incitent les hommes à obéir au commandement de l'amour du prochain, eh bien, ce sont des dogmes universels. Ils sont partagés par tous les hommes. Et ils sont tirés de l'Écriture. C'est ainsi que Spinoza écrit, ligne 46, regardez bien, ligne 46, colonne de droite, appartiennent à la foi catholique, à la foi universelle, ceux-là seuls qui posent absolument l'obéissance envers Dieu et dans l'ignorance desquels l'obéissance est absolument impossible. Commencez à mieux comprendre maintenant le raisonnement. Vous voyez, il y a des dogmes sans lesquels l'obéissance n'est pas possible. C'est-à-dire que celui qui obéit au commandement de l'amour du prochain, eh bien, il, même s'il ne se le formule pas, il croit à un certain nombre de dogmes. Il se représente Dieu d'une certaine façon. Vous voyez ? Et il adhère à un certain nombre d'articles de foi sans lesquels il ne pratiquerait pas la justice et la charité. Vous voyez ? Donc ce sont là les dogmes pieux, ce que Spinoza appelle les dogmes pieux. Quant aux autres dogmes, chacun est libre d'en juger. Chacun est libre de les adopter ou de les rejeter en fonction de sa propre complexion, pour employer un terme de Spinoza, en fonction de son propre tempérament, de sa propre histoire, de sa propre trajectoire, en fonction de ce qui lui paraît le meilleur pour le conforter dans l'amour de la justice. Vous voyez, ligne 48, je pense. Regardez ce que dit Spinoza. À l'égard des autres dogmes, à l'égard des autres dogmes. À chacun, parce qu'il se connaît le mieux, de penser comme il verra qu'il vaut le mieux pour se confirmer dans l'amour de la justice. Je ne sais pas si j'ai bien trouvé le passage. Vous l'avez repéré ? Bon. Je reprends tout de même, par prudence. À l'égard des autres dogmes, à chacun, parce qu'il se connaît le mieux, de penser comme il verra qu'il vaut le mieux pour se confirmer dans l'amour de la justice. Si ça peut aider, si ça peut faciliter la pratique de la justice, pourquoi pas? Mais ça, c'est à lui d'en juger. Ça dépend de lui, de son histoire, de sa complexion. Ça ne peut pas avoir de caractère universel. Vous voyez? Donc, vous voyez qu'il faut distinguer les dogmes de la foi universelle, c'est-à-dire qui sont requis impérativement et auxquels les fidèles sont tenus de croire pour obéir au commandement de l'amour du prochain. Donc il faut distinguer les dogmes de la foi universelle, qui sont les dogmes pieux, des dogmes auxquels on est libre de croire, et qui sont les dogmes auxquels on peut juger utile d'adhérer pour se conforter dans sa pratique de la justice et de la charité. Mais là, c'est variable. Ça va dépendre des uns des autres. Et donc, vous voyez, si vous en tenez rigoureusement à cette distinction, eh bien, vous éviterez de laisser cours à des controverses qui engendrent inévitablement la violence et l'intolérance. Alors voyons maintenant quels sont ces fameux dogmes pieux qui sont absolument indispensables, ceux qui sont impérativement requis pour mouvoir l'âme à l'obéissance. Je reprends l'expression de Spinoza. Alors, ils doivent tous tendre, comme le rappelle Spinoza, à ce seul principe tiré de l'Écriture, selon lequel, ligne 59, selon lequel, alors c'est colonne de gauche, il existe, selon lequel il existe un être suprême qui aime la justice et la charité, auquel tous, pour être sauvés, sont tenus d'obéir, et qu'ils doivent adorer en pratiquant la justice et la charité envers le prochain. Je reprends doucement peut-être. Il existe un être suprême qui aime la justice et la charité, auquel tous, pour être sauvés, sont tenus d'obéir, et qu'ils doivent adorer en pratiquant la justice et la charité envers le prochain. Voilà, ça c'est la visée constante de l'Écriture. C'est ce qu'elle enseigne dans tous les livres, et ce qui se trouve exprimé dans l'enseignement du Christ à ses disciples. Alors ces dogmes que nous allons examiner, ils sont au nombre de 7. Je vous les présenterai rapidement et après nous les examinons. Vous avez d'abord le dogme de l'existence de Dieu. Vous avez ensuite le dogme de son unicité. Puis, celui de son omniscience et de son omniprésence, celui de son pouvoir et de son droit souverain. Ça, ce sont les 4 premiers dogmes qui se rapportent à Dieu. Et puis, les 3 suivants concernent le culte et puis le salut des fidèles. Alors, d'abord, la pratique de la justice et de la charité. Le culte, pour l'essentiel, consiste dans la pratique de la justice et de la charité. Ensuite, vous avez le salut pour les pieux et la perdition pour les impies. Et enfin, dernier dogme, la rémission des péchés. Alors voilà les sept dogmes que nous allons examiner. Commençons par le premier, ligne 64. Il existe un Dieu, hein, il existe un Dieu, c'est-à-dire un être suprême, souverainement bon et miséricordieux, en d'autres termes, un modèle de vie vrai. Donc vous voyez que pour obéir à Dieu, bah, il faut d'abord admettre qu'il existe, évidemment. Il ne faut pas seulement admettre qu'il existe, il faut aussi admettre qu'il est un modèle de vie vrai. Sinon, on ne pourrait pas se référer à son jugement. Hein ? On ne saurait admettre son jugement sans reconnaître que Dieu est un modèle de vie vrai. C'est ce que dit ici Spinoza. Je cite la suite, ligne 66. Qui ne le connaît pas, en effet, ou ne croit pas à son existence, ne peut lui obéir ou le reconnaître comme juge. Pour le reconnaître comme juge, il faut l'appréhender comme un modèle de vie vrai. Alors, ce premier dogme, vous voyez, se borne à affirmer l'existence de Dieu sans déterminer sa nature. Mais ici, il ne s'agit pas de philosophie. Il ne s'agit pas de déterminer philosophiquement la nature de Dieu comme l'être absolument infini, comme le fait Spinoza au début de l'éthique, ou comme il le fait aussi un peu dans le quatrième chapitre du traité théologico-politique. Hein ? C'est vrai que c'est le chapitre philosophique du traité. Donc, vous voyez ici que Dieu est présenté comme un être suprême, ce qui laisse entendre qu'il est au-dessus de tous les autres êtres, et l'emporte sur eux, sans que sa supériorité soit précisément déterminée. Elle se manifeste uniquement par deux qualités que Dieu possède au plus haut degré, la justice et la miséricorde. Et vous voyez ici que, dans ce dogme, et puis à la connaissance de Dieu, se limite seulement à ces deux qualités. Elles constituent, si vous voulez, le minimum de contenu spéculatif requis par la foi pour pratiquer la justice et la charité. Vous voyez, il faut tout de même un minimum de contenu dogmatique, hein, pour pratiquer la justice et la charité. Il faut reconnaître que Dieu est juste et miséricordieux pour effectivement lui obéir. Deuxième dogme, ligne 68, Dieu est unique. Et Spinoza ajoute, il le faut absolument, personne ne peut en douter, pour qu'il soit un objet suprême de dévotion, d'admiration et d'amour, car la dévotion, l'admiration et l'amour naissent de la seule excellence de l'être qui seul est au-dessus de tous. Alors ici, quand Spinoza dit que Dieu est unique, son unicité peut s'entendre en deux sens, qui ne sont d'ailleurs pas incompatibles. Unique, ça peut se dire de façon quantitative, il n'y a qu'un Dieu. Et unique, ça peut se dire de façon qualitative pour dire il est sans pareil. Quantitativement donc, il n'y a qu'un seul Dieu. Et l'unité de Dieu est requise par l'obéissance. Car s'il y avait deux divinités, elles seraient forcément en compétition. On ne saurait plus à quel Dieu se vouer, à quel Dieu obéir. Donc ça, c'est la première chose qu'on peut dire. Et puis, l'unité est aussi qualitative, elle est d'ailleurs surtout qualitative, au sens où Dieu est unique, en ce qu'il est un être sans pareil, en raison de son excellence, hein, c'est le terme employé, en raison de son excellence. C'est son excellence qui suscite la dévotion, l'admiration et l'amour des fidèles pour lui. Et les dispose par ses sentiments à l'obéissance. Ils sont d'autant mieux disposés à l'obéissance qu'ils vénèrent Dieu, qu'ils l'adorent. Troisième dogme, ligne 73, il est partout présent, ou encore, il voit tout. Donc, vous voyez qu'ici, l'ubiquité divine, et puis aussi le fait que Dieu voit tout, y compris l'intention cachée qui est dans le fond de votre conscience, et bien voilà, ce sont là des puissants moteurs d'obéissance. Je peux faire le mal sans être vu des hommes, mais je ne peux pas dissimuler à Dieu mes intentions mauvaises, car Dieu seul est capable de sonder les reins et les cœurs, comme vous connaissez l'expression. Et voyez que pour établir ce troisième dogme, Spinoza recourt à un raisonnement par l'absurde. Regardez ligne 74. Si l'on croyait qu'il y a pour lui des choses cachées, et si l'on ignorait qu'il voit tout, eh bien on douterait de l'équité de sa justice qui dirige tout. Si nous étions persuadés que Dieu n'a qu'une vue partielle des choses, nous ne pourrions pas croire qu'il est souverainement juste, parce que nous pourrions penser qu'il est partial. Et nous serions tentés de nous soustraire à sa loi. Nous serions tentés de lui désobéir. Et c'est bien d'ailleurs ce que montre l'exemple d'Adam, le premier homme. Vous vous souvenez qu'on avait rencontré en lisant le chapitre 2, hein, alors c'est page 57-58, vous retrouverez l'extrait. Voilà ce que Spinoza écrivait d'Adam. Il ignora que Dieu est omniprésent et omniscient. Et il se cacha de Dieu et tenta en sa présence d'excuser son péché comme s'il eût été en présence d'un homme. Et c'est bien, en effet, parce qu'Adam ignorait le troisième dogme, hein, celui de l'omniprésence de Dieu, hein, et bien qu'il crut pouvoir échapper, qu'il crut pouvoir lui échapper, et qu'il fut incité à la désobéissance. C'est-à-dire, au fond, si vous ignorez ce dogme, eh bien, vous désobéissez comme Adam. Hein, voilà, si Adam avait connu ce dogme, il n'aurait pas désobéi, en tout cas dans son imaginaire. Il ne pouvait pas le connaître. Voyez, en tout cas, c'est un dogme nécessaire. On voit bien. Donc, ensuite, quatrième dogme, ligne 76, il a sur toute chose droit et pouvoir suprême, et ne fait rien par obligation légale, mais par bon plaisir absolu et grâce singulière. Tous, en effet, sont tenus de lui obéir, et lui n'obéit à personne. Et qu'en affirmant ainsi l'omnipotence divine, vous voyez que Spinoza use d'un vocabulaire à la fois politique et théologique. Politique parce que Dieu est comme un monarque absolu, il jouit d'un pouvoir absolu, il n'a de compte à rendre à personne puisqu'il est au-dessus de tout le monde. Et puis théologique, parce qu'il est question ici de la grâce singulière de Dieu, et en tant qu'il use de sa grâce singulière, eh bien Dieu n'entre dans aucune logique de la réciprocité par laquelle il serait tenu à une obligation. Puisque ce qu'il fait, eh bien, il le fait en étant absolument libre de le faire, sans être tenu de se justifier. Alors, évidemment, vous voyez, ce dogme, qui est quand même assez amusant, hein, qui présuppose un anthropomorphisme, hein, ce dogme est très éloigné de la thèse philosophique de Spinoza. Hein, puisqu'il représente Dieu de façon anthropomorphique. Or, pour Spinoza, Dieu, c'est la nature dont la puissance s'exprime en toute chose selon une nécessité absolue. Hein. Dieu Dieu ici n'existe pas comme un monarque absolu, hein, pour Spinoza. Mais c'est pas ça qui compte. Ce qui compte, c'est que celui qui croit s'imagine Dieu de telle sorte, eh bien, effectivement, il soit incité à obéir au commandement de la justice, au commandement de l'amour du prochain. Cinquième dogme. Colonne de droite, page 2, en haut. Le culte de Dieu et l'obéissance à Dieu consistent dans la seule justice et la charité, c'est-à-dire dans l'amour du prochain. Alors, ce dogme, comme les deux suivants, ne concerne plus les attributs de Dieu, mais cette fois-ci, les obligations des fidèles, en ce qui concerne le culte, et les modalités du salut. Et précisément, le cinquième dogme définit le contenu du culte et de l'obéissance. Et au fond, le culte se ramène seulement à une seule règle, qui est la justice et la charité. Au fond, le seul culte qui soit nécessaire, c'est la pratique de la justice et de la charité. C'est pas d'aller à l'église, c'est pas de se livrer à telle ou telle cérémonie, c'est de pratiquer la justice et la charité. Voilà. Et tout le reste est accessoire. Et d'ailleurs, quand on lit le chapitre 5 sur les cérémonies, on voit bien que les cérémonies, les rites, comme la circoncision, comme le baptême, d'autres cérémonies encore, ne font pas partie des dogmes de la foi universelle. Ils sont indifférents au salut, ils n'ont rien d'obligatoire. Souvenez-vous par exemple de ce que dit Spinoza au chapitre 5 des cérémonies des Hébreux qui fixent le moindre détail de leur vie quotidienne. Eh bien, ces cérémonies n'ont en réalité aucune fonction religieuse, même si elles ont cette apparence. Parce que c'était des cérémonies qui concernaient seulement la conservation de l'État et qui avaient principalement pour finalité de pourvoir à la satisfaction des besoins matériels. Et quant aux cérémonies des chrétiens, comme le baptême, la communion, les fêtes religieuses, eh bien, elles n'étaient instituées qu'à titre de signes externes de l'Église chrétienne, et non pas comme des pratiques nécessaires pour atteindre le salut. Vous voyez ? Donc, tout ce qui est de l'ordre du culte extérieur est inessentiel. L'essentiel, c'est le culte intérieur, c'est la pratique de la justice et de la charité. Et le sixième dogme tire les conséquences du cinquième, regardez bien, ligne 4, en haut à droite. Tous ceux qui, suivant cette règle de vie, obéissent à Dieu, sont sauvés et ils sont seuls à l'être. Les autres qui vivent sous l'empire des voluptés sont perdus. Alors ici, attention, il y a un contresens à ne pas commettre. On risque de très mal comprendre ce sixième dogme. On pourrait croire à tort qu'il fait l'apologie de l'ascétisme, du sacrifice. Ce n'est pas ce que dit Spinoza. Il s'agit seulement d'affirmer le primat de l'amour du prochain sur les satisfactions hédonistes. C'est-à-dire que la perdition, elle n'est pas dans les plaisirs. On n'est pas coupable d'avoir des plaisirs, c'est pas ça le problème. Mais la perdition, elle est dans l'empire que ces plaisirs exercent sur l'âme, quand on en est complètement dépendant. Et cet empire étouffe à ce moment-là l'amour du prochain. Voilà, ce sens-là qui est perdition. Et enfin, dernier dogme, septième et dernier dogme, celui du pardon et de la rémission des péchés. Regardez bien, ligne 9. Enfin, Dieu pardonne leurs péchés aux repentants. Et ce dogme part d'un constat. Le constat que tous les hommes sont pécheurs, commettent des fautes, y compris les hommes les plus justes. Or, si les hommes ne croyait pas que Dieu peut pardonner, eh bien, il désespérerait du salut et il conclurait dès la première faute qu'ils sont perdus à jamais. C'est pourquoi Spinoza a écrit, regardez ligne 11, ligne 11, vous voyez, « Si donc on n'admettait point cela, tous désespéreraient de leur salut et n'auraient aucune raison de croire à la miséricorde divine. » Alors, ce dogme présuppose, comme on le voit, un certain nombre des dogmes précédents. Par exemple, la croyance en un Dieu miséricordieux. Ou aussi la croyance que Dieu a le pouvoir d'accorder sa grâce. Vous voyez ? Donc, vous voyez, ici, il y a une dépendance de ce dogme au précédent. Alors, bien sûr, il faut le préciser, mais ça va de soi, la rémission des péchés n'est pas inconditionnelle, elle est subordonnée au repentir du pécheur. Dieu pardonne leurs péchés aux repentants, et aux repentants seulement. Alors on notera ici que la nature du salut et de la perdition n'est pas précisée. Sur ce point, le contenu du dogme est indéterminé. Il laisse à chacun le soin d'imaginer la forme de la rémission du péché qui lui paraît la plus appropriée pour susciter en lui l'amour de Dieu et mouvoir son âme à l'obéissance. Par exemple, on peut envisager la rémission des péchés comme les chrétiens. Dieu envoie son Fils Jésus-Christ qui, en mourant sur la croix, rachète les péchés des hommes. Mais ce n'est là qu'une interprétation possible. Ce n'est pas précisé, hein, par le dogme, par l'énoncé du dogme. C'est une interprétation possible. On peut aussi bien envisager la rémission des péchés sans la médiation d'un sauveur. Oui, c'est ouvert. Et si Spinoza, c'est vrai que dans la suite du texte, Spinoza parle du Christ. Donc on pourrait penser que c'est dans le sens du christianisme qu'il envisage la rémission des péchés. Attention, ce n'est pas exact. Parce que s'il parle bien du Christ, il ne fait aucunement référence au dogme de l'incarnation, de la résurrection, et il ne fait pas mention du sacrifice du Christ. Il parle seulement, regardez ligne 15, il parle seulement du Christ selon l'Esprit. Alors je vais lire le passage peut-être. Ligne 15, regardez bien, ligne 15. Celui qui croit ça, pardon, je reprends. Celui qui croit cela fermement, que Dieu, dans sa miséricorde et par sa grâce souveraine régulatrice, Dieu pardonne les péchés des hommes, et qui, pour cette cause, est plus brûlant d'amour pour Dieu, celui-là connaît vraiment le Christ selon l'Esprit, et le Christ est en lui. Le Christ, selon l'Esprit, c'est l'amour du prochain. C'est l'amour du prochain dont le modèle se trouve en Dieu, puisque dès le départ, vous vous souvenez, Dieu, c'est l'être suprême qui aime la justice et la charité. Donc, le Christ, finalement, l'Esprit du Christ, c'est l'imitation, en quelque sorte, de la justice et de la charité, qui est aimée par l'être suprême. Enfin, s'il est bien dit dans ce septième dogme que Dieu pardonne et que l'homme est sauvé, vous verrez qu'il n'est aucunement fait mention de l'immortalité de l'âme. Il n'est fait aucune référence à une autre vie où elle serait sauvée. Même si, bien sûr, il n'est pas interdit de l'envisager. Mais on peut envisager aussi un salut en cette vie et considérer que c'est la seule qui existe. Ce qui est sûr, c'est que ce septième dogme est totalement étranger à la philosophie de Spinoza. Les autres peuvent toujours être lus d'une façon philosophique, on peut toujours les interpréter dans le sens de la philosophie. Mais ce septième dogme est radicalement étranger à la philosophie, puisque La philosophie ne peut pas concevoir Dieu comme un être miséricordieux qui pardonne les péchés. Le pardon n'a aucun sens pour le Dieu nature. Hein ? Le Dieu nature n'est ni bon ni mauvais. Il est. Et il se déploie nécessairement. Vous voyez donc, tous ces dogmes que nous avons présentés sont des dogmes pieux. Je le rappelle. Pourquoi ? Parce qu'ils sont nécessaires à l'accomplissement du commandement de l'amour du prochain. Et ils se déduisent tous de cette règle unique qu'enseigne l'Écriture. Ainsi, à partir de cette règle, eh bien, il est possible maintenant de déterminer jusqu'où s'étend pour chacun la liberté de penser en matière religieuse, puisque c'est là, comme on l'a vu au début, le véritable enjeu de ce chapitre. Et la réponse de Spinoza à cette question, enfin en tout cas la réponse à cette question exige qu'on distingue clairement d'un côté ce qui se trouve en dehors du cadre de ces sept dogmes pieux que nous avons examinés, à savoir les opinions, les croyances qui sont étrangères à la foi universelle. Donc il faut bien distinguer donc, d'un côté tout ce qui est en dehors du cadre de ces dogmes, et puis de l'autre, toutes les pensées qui se trouvent dans le cadre des sept dogmes. Vous voyez ? Ce qui est à l'extérieur et ce qui est dedans. Alors, en dehors de ces sept dogmes, chacun est entièrement libre de penser ce qu'il veut, notamment à propos des questions spéculatives qui prêtent à controverse et sur lesquelles il n'y a pas de consensus. Et il n'y a pas non plus de consensus, d'ailleurs, dans la Bible. Qu'il y a des opinions diverses, hein, des prophètes sur la nature de Dieu. Ce sont des questions, je répète, qui, oui, concernent la nature de Dieu, son mode d'action, la manière dont il se rapporte au monde. Vous voyez, ce sont des questions de cet ordre-là, qui sont objets de controverse. Et là, je cite, regardez bien, en haut, colonne de droite, page 2. Ligne 23. Quant à savoir ce qu'est Dieu, c'est-à-dire le modèle de la vie vraie, ça c'est du point de vue de la foi, s'il est feu, esprit, lumière, pensée, etc., etc., cela ne touche en rien à la foi. Alors ça, c'est vraiment important. Le feu, à quoi il fait allusion, Spinoza ? À la conception des stoïciens. Les stoïciens, effectivement, considèrent que le monde est animé par un feu artiste qui façonne l'univers, qui l'organise. Vous voyez, c'est un feu qui organise le monde, hein, qui anime et qui organise le monde. Donc c'est à cette référence que pense Spinoza, aux stoïciens. Bon, alors que Dieu soit feu, concevez-le comme vous voulez. Ça n'a pas d'importance. Ça n'a pas d'importance. Ce qui compte, c'est que vous vous rapportiez à lui comme un modèle de vie vraie. Vous voyez ? Donc, voilà, ça c'est une première chose. Et puis, on peut aussi aborder d'autres questions. Par exemple, ligne 33 à 36. Dieu dirige-t-il les choses librement ou par une nécessité de nature ? Prescrit-il des lois à la façon d'un prince ou les enseigne-t-il comme des vérités éternelles ? Vous vous souvenez, c'est une question qui avait été abordée au chapitre 4, dans le fameux chapitre philosophique du traité. Bon, ben ici, pour la foi, ça n'a strictement aucune importance. D'abord, il n'y a pas d'accord entre les uns et les autres, entre les philosophes, entre les théologiens, sur la question de savoir... Si Dieu dirige les choses librement ou par nécessité de nature, ce sont des questions controversées. Or, Spinoza, évidemment, a sa réponse en tant que philosophe. Mais ce n'est pas important du point de vue de la foi de dire que c'est ceci ou cela. Ce sont des questions qui intéressent bien sûr les philosophes, mais qui, comme l'écrit Spinoza, sont indifférentes à la foi. Indifférentes à la foi. Et à propos desquelles il n'y a pas de consensus. Alors, qu'est-ce qu'il en est maintenant de la liberté de penser dans le cadre des 7 dogmes pieux que nous avons examinés? Je pose ma question d'une autre façon. Est-ce que la foi exige qu'on interdise, qu'on restreigne la liberté de penser? C'est à ça qu'on pense. Eh bien, voyez la réponse de Spinoza. Ligne 45. Il y a plus. C'est souligné, hein? Ligne 45, colonne de droite, page 2. Il y a plus. Chacun est tenu, nous l'avons dit plus haut, d'adapter ses dogmes de la foi à sa compréhension propre, d'adapter ses dogmes à soi-même, l'interprétation... Excusez-moi, je reprends. Je reprends tout parce que j'ai manqué un mot. Il y a plus. Donc chacun est tenu, nous l'avons dit plus haut, d'adapter ses dogmes de la foi à sa compréhension propre et de s'en donner à soi-même l'interprétation qui pourra lui en rendre plus aisée l'acceptation, non pas hésitante, mais pleine et sans réserve, afin que son obéissance à Dieu vienne aussi d'une âme pleinement consentante. Je relis parce que c'est bien de reprendre les choses. Il y a plus. Chacun est tenu, nous l'avons dit plus haut, d'adapter ses dogmes de la foi à sa compréhension propre et de s'en donner à soi-même l'interprétation qui pourra lui en rendre plus aisée l'acceptation, non pas hésitante, mais pleine et sans réserve, afin que son obéissance à Dieu vienne aussi d'une âme pleinement consentante. Donc, si j'ai bien compris, dans le cadre de ces 7 dogmes pieux, chacun est libre de sa façon de croire. Chacun est entièrement libre de penser et de choisir l'interprétation qui lui convient le mieux, parce qu'elle lui paraît la plus propice à l'adoption de ces 7 dogmes et à l'accomplissement du commandement de l'amour du prochain. Vous voyez, c'est ça qui est important. C'est-à-dire, au fond, à chacun d'accommoder, en quelque sorte, à sa propre complexion, justement, ces 7 dogmes. Et vous avez vu, ils sont suffisamment indéterminés pour laisser une certaine marge, hein, pour laisser plusieurs interprétations. Bon. Alors, vous me direz, oui, bon, c'est de la tolérance. On tolère une certaine liberté. Mais non. Est-ce qu'il s'agit vraiment, ici, pour Spinoza, de tolérer que les hommes puissent exprimer leur liberté de penser à propos de ces dogmes? Non, ce n'est pas ce que dit Spinoza. Pour Spinoza, si vous regardez bien, la liberté de penser n'est pas une simple concession, une simple tolérance, c'est une nécessité. Il est nécessaire que chacun soit libre d'interpréter à sa façon les dogmes pieux, sans quoi il n'obéira pas vraiment à Dieu, sans quoi son obéissance ne sera pas entière et elle sera au contraire compromise. C'est-à-dire que l'idée de Spinoza est la suivante, c'est que l'obéissance n'est vraiment effective que si elle est consentie. Et pour qu'elle soit consentie, il est indispensable que les croyants disposent d'une entière liberté de penser et qu'ils puissent interpréter les dogmes à leur façon. Vous voyez ? C'est fondamental. Alors, oui, on pourra toujours dire, ça c'est une affirmation de Spinoza, ça c'est... Eh bien non, ce n'est pas une affirmation de Spinoza. Ce que Spinoza affirme, en tout cas c'est ce qu'il montre, c'est ce qu'affirme l'écriture elle-même. Et c'est là, je dirais, la force du texte. Hein ? Spinoza n'invente rien. En tout cas, il considère qu'il n'invente pas, que c'est l'écriture elle-même qui affirme que la liberté de penser est nécessaire aux croyants. Et qu'est-ce que montre en effet l'écriture? Elle montre, regardez ligne 52, que la foi a été révélée et écrite suivant la compréhension et les opinions des prophètes et du vulgaire de leur temps. Hein? La foi a été révélée et écrite suivant la compréhension et les opinions des prophètes et du vulgaire de leur temps. Donc ces hommes s'en donnaient librement une interprétation propre à faciliter leur pratique de l'obéissance. Vous voyez, c'est-à-dire que, au fond, la foi, elle s'adapte, enfin disons, les hommes adaptent la foi à leurs propres opinions, à leurs propres complexions. Vous voyez, c'est-à-dire qu'ils s'en emparent, hein, librement. Et s'ils ne s'en emparaient pas librement, hein, s'ils n'interprétaient pas librement les dogmes de la foi, ben, il ne serait pas incité à obéir. Ce qui, justement, les motive dans l'obéissance, c'est ce consentement qui repose sur la liberté. Vous voyez, c'est fondamental. Et parallèlement, ou plutôt pareillement, il s'agit au fond pour les hommes du présent, du temps présent, comme c'était le cas des hommes du temps passé dont parle l'Écriture. Eh bien, il s'agit pour les hommes du temps présent de se donner aussi à eux-mêmes, librement, une interprétation et qui permette d'adapter la foi à leurs opinions. Afin, je lis la ligne 55, afin de pouvoir y adhérer sans nulle résistance de sa pensée et sans nulle hésitation. Et on peut peut-être même reprendre toute cette phrase que j'ai citée par morceaux, hein, regardez bien, juste après celle qui a été soulignée, la ligne 51, car nous l'avons déjà indiqué, de même que jadis la foi a été révélée et écrite suivant la compréhension et les opinions des prophètes et du vulgaire de leur temps, de même aussi, chacun est tenu de l'adapter à ses opinions afin de pouvoir y adhérer sans nulle résistance de sa pensée et sans nulle hésitation. Donc, vous voyez que, d'après Spinoza, lui, c'est l'écriture elle-même qui préconise la liberté de penser. Vous voyez, des hommes. Donc, la liberté de penser en matière de foi est préconisée par l'écriture. Alors, nous arrivons au dernier point du chapitre. Maintenant que nous savons en quoi consiste la foi, maintenant que nous connaissons ses caractères fondamentaux, eh bien, il est possible de montrer en quoi elle se distingue radicalement de la philosophie, avec laquelle, trop souvent, elle est confondue par les théologiens. Vous savez, les théologiens, ce sont ces doctes qui, comme Calvin, par exemple, hein, qui élaborent une doctrine. Bon, et qui fondent d'ailleurs une église. Eh bien, que dit Spinoza? Regardez, cette fois-ci, page 3, ligne 16. Il reste à montrer, enfin, écrit Spinoza, qu'entre la foi ou la théologie... Alors, là, il va falloir que je fasse une petite explication de vocabulaire, mais je reprends la phrase. Hein. Il reste à montrer, enfin, qu'entre la foi ou la théologie et la philosophie, il n'y a nul commerce, nulle parenté. Oui, précision nécessaire. Spinoza dit la foi ou la théologie. Pour lui, c'est synonyme. Alors que la théologie, c'est le domaine de la piété, c'est le domaine de la foi. Le mot théologie, pour Spinoza est un mot positif. Par contre, quand il parle des théologiens, c'est très négatif. Vous voyez ? Je tiens à le souligner. Et effectivement, il faut donner cette précision. Donc, entre la foi et la philosophie, il n'y a nul commerce, nulle parenté. Bon, elles ne sont rien de semblables. Il n'y a aucune relation entre elles. Elles sont deux domaines radicalement hétérogènes. Alors, d'une part, parce qu'elles n'ont pas le même but, c'est ce que va montrer Spinoza, elles n'ont pas le même but, et d'autre part, parce que les fondements sur lesquels elles reposent sont de nature complètement différente. Alors, Lin 20, le but de la philosophie est uniquement la vérité. Celui de la foi, comme nous l'avons abondamment montré, uniquement l'obéissance et la piété. Car en philosophie, il ne s'agit jamais d'obéir. Il ne s'agit jamais de se soumettre à une quelconque autorité, hormis celle de la vérité. Hormis celle de la vérité que l'on démontre par la raison. L'objet de la foi, quant à lui, est radicalement étranger à la vérité. Le domaine de la foi est étranger à celui de la vérité. Et l'objet de la foi, c'est l'obéissance. L'obéissance, la piété, c'est synonyme, en fait. Et la piété, Elle n'est pas affaire de vérité, contrairement, par exemple, à ce que dit l'Église catholique quand elle condamne Galilée, à la fois pour fausseté et hérésie. Elle mélange. La piété n'est pas affaire de vérité. Et d'ailleurs, on a pu voir qu'elle s'accommodait souvent davantage de fausseté. C'est pas parce qu'on a des raisons savantes qu'on a mieux la foi. Vous voyez ? C'est pas une affaire de raison, c'est pas une affaire de raisonnement, c'est pas une affaire de capacité intellectuelle, c'est pas affaire de la foi, c'est d'un autre ordre. Et obéir et croire, c'est la même chose. Rappelez-vous, croire en Dieu, c'est obéir à Dieu. Étant entendu que obéir en religion, c'est obéir à Dieu en mettant en pratique le commandement divin de l'amour du prochain. Et si vous avez bien compris en quoi la foi et la philosophie sont deux domaines radicalement étrangers, eh bien, on ne peut plus parler de doctrine vraie en matière de religion. On ne peut plus incriminer un homme en l'accusant d'impiété ou d'hérésie, parce qu'il s'écarterait du dogme proclamé comme vrai par une église. Ça n'a plus de sens. Et la confusion entre vérité et piété, ça mène tout droit à l'intolérance et à la persécution. Puisqu'au nom de la vérité, on va persécuter. Donc, la foi ne vise pas la vérité. Elle vise exclusivement la justice et la charité. Ainsi, l'impiété ne consiste pas, on l'a dit, et je le répète, elle ne consiste pas à s'écarter du dogme proclamé vrai, mais elle consiste à violer le commandement de l'amour du prochain. Deuxièmement, la foi et la philosophie ne reposent pas sur les mêmes fondements. Alors, les fondements de la philosophie, comme l'indique Spinoza, ligne 23, ce sont des notions communes. C'est-à-dire, au fond, des notions qui peuvent être formées par tout homme qui raisonne. Les notions communes, pas compliqué à comprendre. Hein. Ce sont au fond des notions universelles, communes, hein, que tout homme peut penser, que tout homme est capable de penser, en exerçant sa raison. Elle relève de la lumière naturelle. Hein. La lumière naturelle, c'est cette métaphore hein, qui signifie la raison. Bon. Les fondements de la foi, comme l'a montré le chapitre 7, auquel d'ailleurs Spinoza nous renvoie, eh bien, les fondements de la foi, ce sont les récits de l'Écriture qui relatent des révélations, des miracles, qui sont adaptés à la compréhension des Hébreux des temps anciens et qui sont consignés dans les livres des prophètes. Donc, voyez bien que la foi ne tire pas ses enseignements de la raison, on l'avait déjà montré, mais elle tire ses enseignements de la seule Écriture dont il faut apprendre à comprendre le sens en distinguant en elle son enseignement moral universel de la diversité historique des opinions à travers lesquelles elle est exprimée. Et c'est ce qu'on a fait avec la méthode d'interprétation de l'Écriture. En conclusion, que retenir surtout de ce chapitre 14 ? Moi, je pense qu'il y a surtout deux idées fortes qu'il faut retenir. Première idée, que c'est la confusion qui est faite par les théologiens entre la vérité et la piété qui est à la source des controverses religieuses qui dégénèrent en guerre civile. Hein, quand on prétend détenir la vérité et qu'on se fait prosélyte, eh bien, tôt ou tard, on va se heurter à l'erreur des autres. Et on va vouloir les ramener dans le droit chemin. Bon. Ainsi, montrer que la foi est radicalement étrangère à la question de la vérité, bah, ce n'est plus laisser place à ces controverses. C'est tarir une des sources les plus pernicieuses de la guerre civile. Et deuxième idée, contrairement à ce qu'en disent les théologiens et les fondateurs de sectes, la liberté de penser n'est aucunement nuisible à la piété, puisqu'elle lui est au contraire propice, puisqu'elle autorise chacun à forger ses propres représentations de Dieu et du culte de la manière qui lui semble la plus appropriée pour accomplir le commandement de l'amour du prochain, c'est-à-dire pour pratiquer la justice et la charité. Vous comprenez aussi que ce commandement est quelque chose sur lequel on peut s'appuyer pour construire une société pacifiée. Que l'obéissance religieuse, elle a aussi un intérêt politique de ce point de vue-là. Et je laisserai le dernier mot à Spinoza, qui dans sa conclusion déclare, regardez lignes 27 à 36, je vous lis, on restera là-dessus. La foi donc reconnaît à chacun une souveraine liberté de philosopher, de telle sorte qu'il peut sans crime penser ce qu'il veut de toute chose. Elle condamne seulement comme hérétique et schismatique ceux qui enseignent des opinions propres à répandre parmi les hommes l'insoumission, la haine, l'esprit combatif et la colère. Elle tient pour fidèles, au contraire, ceux-là seulement qui, dans la mesure où leur raison et leur faculté le permettent, répandent la justice et la charité. Amen. Bon, je ne sais pas pour résister. Voilà, à vos questions. Et... Oui.
Mais le Dieu nature... Est-ce que ça ne va pas à l'encontre de la séparation de la foi et de la philosophie?
Ah non, ça relève de la philosophie.
Parce que connaître la nature, c'est le but de la philosophie, mais donc connaître Dieu, si Dieu c'est la nature, ça sera un peu la même chose, alors que là, il sépare très clairement les deux domaines.
Attendez, soyons clairs. Ceux qui peuvent connaître la nature philosophiquement sont rares. Ceux qui peuvent effectivement agir vertueusement parce qu'ils agissent selon, en suivant la raison, sont rares. La plupart des hommes sont ignorants. Et puis même le philosophe, il n'est pas tout le temps en train de suivre la raison. Donc, il s'agit simplement de montrer que, j'ai du mal à comprendre votre question, que la foi, effectivement, est ce qui anime la plupart des hommes, et que il faut en déterminer la vraie nature si on veut éviter qu'elle soit, dénaturée en une attitude d'intolérance. Vous voyez, c'est ça l'idée. Mais peut-être que j'ai mal compris votre question.
Ben si la nature n'est ni bonne ni mauvaise,
oui.
ce à quoi j'adhère pleinement, à ce moment-là, où se trouve la justice
C'est vrai que là, il faudrait...
Dieu soit un juge.
Non, mais par contre, les hommes, le sage... va comprendre qu'il est nécessaire qu'il y ait entre les hommes des relations morales. C'est-à-dire que, enfin, dans le développement, l'éthique va montrer effectivement qu'il est important que les hommes s'unissent. Hein, et ils s'unissent d'autant mieux qu'ils sont gouvernés par la raison. Bon. Et que les passions, au contraire, les opposent, les divisent, les déchirent. Bon. Mais cela, le philosophe, lui, il peut envisager les choses de cette façon, sans croire en Dieu, il n'a pas besoin de croire en Dieu, pour effectivement agir. Son attitude...
La justice est un idéal humain, en quelque sorte.
Oui.
Ça n'est pas inclus dans la nature.
Non, je suis d'accord. Je suis d'accord. Il va montrer... C'est pour ça que la justice va dépendre de l'établissement d'un État. Une société politique. Toute cette réflexion démonstrative peut très bien se passer de la croyance en Dieu, du point de vue du philosophe. Hein. Le philosophe n'a pas besoin de croire en Dieu. Il n'a pas besoin de le croire. Il peut agir vertueusement sans foi, sans croyance en Dieu. Mais d'une certaine façon, même s'il ne croit pas en Dieu, il rejoint le croyant véritable, en pratiquant la justice et la charité. C'est-à-dire qu'il y a deux façons, d'une manière ou d'une autre, d'arriver, au fond, à cette pratique, soit par la raison, soit par la foi. Alors évidemment, là, il faudrait de plus ample développement pour que ce soit plus clair.
Alors, les petits véhicules, c'est-à-dire que la philosophie, ça serait pour les élites.
Par la force des choses. Par la force des choses.
Ouais.
Par la force des choses. Non pas par une sorte de mépris pour le bas peuple, hein, mais par la force des choses. Oui, allez-y.
Oui, quand je comprends, l'importance, c'est la justice et la charité, d'y consentir librement, de croire librement. Comme disait Jean, la foi sans les œuvres n'est rien. Et justement, on n'a plus besoin de la foi, non.
Si.
Et ça s'oppose au sept dogmes.
Ah non, la foi, elle a besoin des dogmes pour obéir.
Oui, mais la justice et la charité n'ont pas besoin.
Ah ben si, parce qu'on ne la pratique pas si on n'a pas la foi.
Mais la foi en quoi ?
La foi en Dieu.
Oui, on peut très bien ne pas croire en Dieu.
Ah oui. Ou alors, par cette voie très rare, qui n'est pas donnée à tout le monde, effectivement, par la philosophie.
Oui, voilà.
Voilà, ça d'accord. Mais Spinoza, il envisage les hommes tels qu'ils sont, qui sont la plupart ignorants. Et encore une fois, quand il dit ignorant, il ne considère pas que l'ignorance est une sorte, de condition indépassable. Nous commençons tous par être ignorants. Le philosophe lui-même est ignorant. Hein, bon, lui-même, il est traversé par des passions. Enfin, je veux dire, les choses ne sont pas aussi simples que ça. Il n'y a pas d'un côté l'ignorant, puis de l'autre côté le philosophe. Mais ce qui est très difficile, c'est d'atteindre la béatitude par la voie de la philosophie. Ça, c'est clair. C'est un chemin. C'est un chemin que suit Spinoza, mais il est bien conscient que c'est difficile et rare. Donc, si vous voulez, là, il s'interroge sur la condition humaine de la plupart des hommes qui ont la foi, qui ont... Voilà, qui... Il va montrer qu'on ne peut pas... Son enjeu pour lui, c'est... Il veut absolument montrer que la religion n'est pas ce qu'en font les théologiens. Voilà. Il veut l'arracher, en quelque sorte, des mains des théologiens. Qui, je dirais, sous couvert de religion, c'est une formule qui revient souvent chez lui, eh bien, imposent, au fond, leur propre ambition pour gouverner les hommes, pour avoir un pouvoir sur les consciences. Et ça, et pour interdire aussi la liberté de penser. C'est ça l'enjeu pour lui, fondamental. C'est pour ça qu'il s'est intéressé à la question quand il a vu que les théologiens cherchaient, en quelque sorte, à encadrer la liberté de penser. Bah, au XVIIe siècle, vous avez vu ce qui est arrivé à Giordano Bruno, à Galilée. Bon, et Descartes lui-même a dû renoncer à la publication de son traité du monde, hein, parce qu'il n'avait pas envie d'avoir des ennuis. Et l'Église était toute puissante. C'est de ça dont il s'agit. Et voilà, c'est pour ça qu'il s'en mêle. Alors. Oui. Oui.
L'entendement, donc la philosophie,
oui.
Oui. Et est-ce qu'on pourrait lire le traité de Dieu comme un moyen de trouver en fait une rectitude, en fait, une pédagogie de l'imaginaire,
oui.
Finalement,
oui. Oui.
Notamment autour de ces sept dogmes principaux.
Oui.
Et en fait, ce serait un éclairage effectivement intéressant. Ça justifierait justement.
Alors, entièrement d'accord, la religion, elle est du registre de l'imaginaire. Mais l'imaginaire, c'est pas péjoratif. Hein. C'est pas du tout péjoratif. C'est-à-dire que nous vivons, nos rapports sont des rapports imaginaires. Non, pas du tout, puisque... Dans la mesure où l'imaginaire désigne le rapport immédiat que nous avons aux choses et au monde. Donc, nous vivons dans l'imaginaire. L'imaginaire, ce n'est pas l'irréel, hein. C'est au fond toutes ces opinions, toutes ces croyances qui sont le reflet finalement de notre manière de vivre et de nous rapporter au monde, spontané. Et donc c'est fondamental. Et en politique, c'est fondamental. C'est pour ça que la religion, elle a un rôle politique à jouer pour Spinoza. Et par contre...
La politique, il fallait d'abord commencer par...
Voilà, alors... Absolument. Et c'est pour ça qu'il faut peut-être distinguer trois formes de religion chez lui. Il y a la religion superstitieuse, alors qu'on a trop vite fait de réduire, enfin, on a trop vite fait de réduire la religion à cette forme-là. Alors c'est vrai qu'elle est courante. Et ça, effectivement, dès lors que la religion est investie par la crainte et qu'elle est manipulée, au fond, par les théologiens, alors là, évidemment, c'est la superstition. Et ça, c'est ce dont il parle surtout dans la préface. Bon. Mais il y a, sinon, la religion universelle, qui n'est pas fondée sur la raison, hein, mais qui repose sur ce que l'Écriture nous enseigne. Alors, c'est de ce dont nous parlons. C'est ce dont parle surtout le traité théologico-politique. Et cette religion, elle est... Je dirais, elle est, comment dirais-je, elle permet la concorde. Elle est favorable à l'unité des hommes.
C'est-à-dire qu'on ne pourrait pas parler de politique si on n'avait pas commencé par justement définir cette religion.
Voilà. Et alors, tant que les hommes, si c'est cette religion-là qui anime les hommes, ils ne sont pas en guerre les uns contre les autres. Au contraire, elle est voilà, elle favorise la concorde, l'unité. Mais quand les religions deviennent des instruments de guerre et de violence, c'est qu'elles sont investies par la superstition. C'est autre chose. Et puis il y a une troisième religion qui est la religion du philosophe.
Voilà.
Parce que, en fond, pour Spinoza, la vraie religion, c'est la philosophie.
Oui, mais seulement, on peut en construire une politique à partir de ça, parce
voilà.
qu'il faudrait que tous les
hommes puissent. Ah ben, ça, la politique se déploie dans le domaine des passions.
Voilà.
Donc on est obligé de tenir compte des passions. Ça, c'est clair. Spinoza n'est pas. C'est un penseur réaliste.
Ouais.
Et c'est, je dirais, c'est. Je peux me permettre, les maîtres à, le maître à penser de Spinoza, c'est Machiavel. Hein? C'est-à-dire qu'il est. Voilà, c'est, il faut prendre les hommes tels qu'ils sont. Et ça ne veut pas dire qu'il faut qu'ils restent tels qu'ils sont. Mais si on veut une transformation, il faut partir de ce qu'ils sont. Voilà. Et donc, quels sont. À quelles possibilités a-t-on hein, de construire une société viable? Et effectivement, pour Spinoza, c'est un penseur de la démocratie. Il pense que la démocratie, c'est le régime le plus solide. Alors, ça ne veut pas dire que c'est facile à réaliser. Bon, mais on ne va pas pouvoir parler de ça, parce que c'est très très long. Il faudrait vraiment passer 2 ans, 3 ans sur le texte. Et ça mériterait. Et c'est formidable. Mais bon, il y a une religion universelle qui est la religion philosophique. Le mot religion, vous voyez, a 3 sens pour Spinoza. Et bon, je crois qu'il faut faire cette distinction. C'est-à-dire que l'amour intellectuel de Dieu, c'est pas la foi. C'est pas la foi. On en a parlé un peu, hein, avec le 4e chapitre. C'est ce qui permet à celui qui atteint cet amour intellectuel de Dieu, de vivre dans la béatitude. Mais c'est une béatitude vécue dans cette vie. Il n'y a pas d'au-delà. Vous voyez ? Alors, à vous.
La parabole du bon samaritain, ça éclaire bien ce que a dit Spinoza sur la justice et charité.
Oui.
Avec les trois personnages.
Oui. Oui, tout à fait.
Ça résume bien cette pensée.
Tout à fait. Bon, oui, le Christ est toujours souvent cité en exemple, hein, puisqu'il il est cet homme qui pratique par excellence la justice et la charité. Et la charité.
Quand il pose la question à son interlocuteur, quel est ton prochain, dans les trois attitudes du prêtre, du lévite et du samaritain,
alors la charité, un mot qu'il faudrait revoir parce que c'est un mot qui est devenu péjoratif parce que faire la charité, c'est ouais, non mais faut quand même le rappeler, c'est que la charité c'est l'amour du prochain. Voilà, c'est l'amour du prochain au sens noble du terme. Mais effectivement, quand on dit qu'on fait la charité, c'est au détriment de la justice. Hein, c'est une attitude condescendante, paternaliste. Bon, ça, c'est autre chose. Mais c'est vrai que ce sens-là existe.
Je lisais Plotin il y a quelques mois, et j'étais étonné qu'il mette noir sur blanc que le langage décrivait l'image de l'objet réel.
Vous parliez de qui ?
Plotin. Néoplatonicien.
Oui, oui.
Pour revenir à cet imaginaire, là, vous parlez du rapport immédiat aux choses. Et je ne sais pas quel philosophe. Donc Plotin, il le dit, noir sur blanc, le langage décrit non pas le réel de l'objet, mais l'image de l'objet réel. Vous voyez ce que je veux dire ? Pour dire ce rapport un peu à l'imaginaire et à l'intellectuel.
Alors,
pour qu'on soit prisonnier de notre sensation première, ou je ne sais pas quoi. Quel philosophe ont parlé de ça, peut-être les premiers
Bon, je ne vais pas me lancer dans des comparaisons entre les philosophes, mais je dirais que pour Spinoza, l'imaginaire, c'est la connaissance immédiate. C'est la perception que j'ai de mon environnement relève pour Spinoza de ce qu'il appelle l'imagination. C'est-à-dire que l'imagination, c'est un concept qui désigne un mode de connaissance. Et qui n'est pas une connaissance adéquate. C'est-à-dire, par exemple, bon, l'exemple fameux, c'est l'exemple du soleil. C'est-à-dire que je vois le soleil comme s'il était une grosse poule à 200 pas. Et j'ai beau savoir que la Terre tourne autour du soleil, j'ai beau être astronome, je ne peux pas m'empêcher de voir le soleil comme une grosse boule. C'est-à-dire que c'est là qu'on doit faire la distinction entre l'illusion et l'erreur. C'est-à-dire, voilà, que l'illusion elle est irréductible. Par contre, il y a erreur à partir du moment où je prends cette illusion pour une connaissance. Voilà. Ça, donc, vous avez... vous voyez, alors, par contre, il y a des degrés, peut-être, dans l'imagination. Il y a la perception à proprement parler, et puis il y a l'imagination consiste à faire persister l'image d'une chose alors qu'elle n'est plus présente. Voilà. Ça, c'est... Vous voyez, c'est bon. Mais... alors il faut aussi rappeler que pour Spinoza, l'esprit et le corps ne sont pas deux choses distinctes. En fond, nous sommes des corps pensants. Nous sommes des corps pensants. Hein. C'est-à-dire que... alors là, je ne peux pas me lancer trop dans cette explication, c'est un peu compliqué. Mais il ne distingue pas comme, par exemple, un certain nombre de philosophes... une réalité qui serait spirituelle d'une réalité qui serait matérielle. Hein, c'est-à-dire que ici, Dieu, par exemple, Dieu, eh bien, il s'exprime en plusieurs attributs qui sont la pensée et l'étendue. C'est-à-dire que la nature, elle se déploie, la nature, c'est-à-dire Dieu, se déploie à la fois et en même temps dans la matière et dans la pensée. Et donc, en nous, c'est la même chose. C'est-à-dire que nous, ce que nous, à toute pensée, à toute idée, correspond à un état du corps, et à tout état du corps correspond une pensée. Bon, je simplifie, hein. Mais vous voyez, on peut pas, il n'y a pas de dualisme pour Spinoza. Il n'y a pas de dualisme. Hein. Et d'ailleurs, toutes les pensées, il se moque des pensées dualistes. Hein. Bon. Mais on va pas entamer cette discussion. Alors là, il faudrait lire l'éthique. Et là, ce sera un petit peu plus difficile. Mais pourquoi pas ? Non, surtout, c'est en fait le plus difficile. C'est toujours les débuts des œuvres. C'est pour ça que on se décourage vite parce qu'on se dit ah bon c'est trop difficile, je vais pas poursuivre. Bah c'est le livre 1 le plus difficile. Bon, les autres sont pas. Mais c'est beaucoup plus facile. C'est pour ça que quand on a lu l'éthique, il y a quelques années, on a pris la partie 3. C'est-à-dire directement, quoi. Et en présupposant un certain nombre de choses, quoi, parce qu'on ne pouvait pas tout... Mais c'était plus facile. C'était directement sur la question des passions. Mais ça affecte. Voilà. Donc...
Et l'amour jusqu'au sacrifice, est-ce que ça parle à Spinoza ?
Non.
C'est dans l'écriture un peu partout.
Oui,
dans. Avec Jésus, mais aussi avec le.
Oui.
Dieu demande à Abraham de.
Oui. C'est vrai.
Et puis finalement, il dit non, c'était de l'humour juif. C'est un peu partout. Et est-ce qu'il trouve ça outré ou bien.
Non, mais c'est-à-dire que pour lui, le conatus, l'élan vital qui nous constitue, notre désir, il tend à s'épanouir et aimer son prochain comme soi-même, c'est pas se sacrifier pour lui. Il l'envisage pas comme ça. C'est chercher son utilité comme moi je cherche la mienne et d'une certaine façon je renforce ma propre utilité, je renforce ma propre puissance d'agir en contribuant à renforcer celle des autres. Hein. Il n'y a pas du tout de conception sacrificielle chez Spinoza, pas du tout. Hein. Mais bon, alors par contre, il n'est pas ignorant, il sait bien que le christianisme met au centre de sa doctrine le sacrifice du Christ. Mais voyez bien qu'il n'en parle pas.
Oui, ça lui paraît déraisonnable.
Il n'en parle pas. Bah, il dit on a le droit de. Non, mais encore, c'est partie de sa de ce qu'il dit là, du septième dogme, c'est-à-dire que on peut imaginer que la rémission des péchés passe par le sacrifice du Christ, mais c'est pas du tout, c'est une possibilité d'interprétation, mais c'est pas forcément la seule. Mais il n'exclut pas cette possibilité, hein. Mais il n'en parle pas. Non, quand il parle du Christ, il n'en parle pas sous cet angle-là. Vous avez remarqué, hein. Tout ce qui est de l'ordre du sacrifice, de l'incarnation, de la résurrection, n'apparaît pas. C'est uniquement l'amour du prochain. Je crois qu'on peut arrêter là. Merci à vous.